Et maintenant, on va retrouver Bobonne, les mots croisés et la radio.
La beauté d'une voix, c'est qu'elle remplit seule une salle immense.
Restez une minute, je viens vous parler.
Je vous écoute.
Alors, c'est pourquoi ?
Par curiosité, pourquoi ? C'est pour ça que je t'ai suivi, bonhomme.
Curiosité, l'info locale autrement. C'est sur Canal B du lundi au vendredi à 17h40 et en rediffusion le lendemain à 9h40.
Antonin Bravet et Laurine Le Floch, bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Je vous présente Antonin. Vous travaillez dans le réseau de santé Louis Guillou qui accueille prioritairement des personnes en situation de migration et ou de précarité. Laurine Le Floch, vous coordonnez l'antenne rennaise de J'accueil Rennes, une structure dont on va rappeler l'émission dans un instant. Ensemble, on annonce un événement qui a lieu le mercredi 18 décembre du côté de l'Hôtel Pasteur ici à Rennes. Ça se passe de 9h à 18h à l'occasion de la Journée internationale des migrants et des migrantes. On va commencer, Antonin, par parler de ce réseau Louis Guillou. Vous y coordonnez le dispositif DATASAM, 7 lettres pour dispositif d'appui technique pour l'accès aux soins et l'accompagnement des migrants. Est-ce que c'est une spécificité bretonne d'avoir ce genre de dispositif qui est soutenu par l'Agence régionale de santé ?
Oui. On cherche encore des dispositifs équivalents ailleurs. Il en existe pas. Il existe évidemment plein d'autres dispositifs ailleurs qui travaillent sur ces sujets, qui font de l'accueil, de la prise en soin de ces publics. Mais sur une structuration régionale, avec un réseau vraiment à l'échelle du territoire régional, je crois qu'il n'y en a pas d'autres.
Ça, c'est un dispositif, mais parmi d'autres au sein du réseau de santé Louis Guillou, qu'on peut peut-être présenter. Il y a différents types de missions qui sont menées.
Oui, alors le réseau Louis Guillou, c'est une association. Qui intervient de deux grandes façons. La première façon, c'est en proposant de l'accueil et de la prise en charge des publics. Donc là, uniquement sur le territoire de Rennes, donc du Grand Rennes, avec un centre médical, un centre de soins en santé mentale, un pôle d'interprétariat. Voilà, on a tout un certain nombre d'activités qui concernent la prise en charge et la prise en soin de ce public. Et on a un deuxième grand volet d'activité qui concerne plus là l'accompagnement, la mise en réseau des professionnels, donc avant tout sur le reste du territoire de la région, donc sur les trois autres départements. On travaille avec un réseau de professionnels qui sont ancrés dans les plus grandes villes de la région et qui, eux, à leur échelle, essayent de structurer, coordonner un tissu de professionnels pour apporter des réponses. Dans ce cadre-là, on essaye aussi de participer un peu au travail de plaidoyer, d'information sur les sujets de santé des personnes exilées au niveau du national, d'organiser des événements un peu d'information et de sensibilisation. Et donc c'est notamment dans ce cadre-là qu'on organise la journée de mercredi, dont on reparlera tout à l'heure.
Dont on annoncera le programme. Alors plutôt à l'échelle de la région, est-ce qu'on a une idée du nombre de personnes qui peuvent bénéficier de l'accompagnement du réseau de santé Louis Guillou ? Et est-ce qu'il y a des spécificités dans la façon d'accompagner ce public de personnes en situation de migration et ou de précarité ? On précise que vous formez aussi les professionnels sur ces questions-là. Donc c'est qu'il doit y avoir des spécificités.
Oui et non. Il n'y en a pas vraiment, dans le sens où nous, ce qu'on s'efforce aussi de dire, c'est que ces personnes-là, ce sont avant tout des patients, des personnes comme les autres, qui ont besoin d'être soignées, d'être écoutées, d'être entendues. Des fois, ça demande d'être rassuré, et ça au même titre qu'un peu n'importe qui. Il y a des fois un peu le fantasme de c'est une personne exilée et moi, en tant que médecin, du coup, je ne suis pas apte à la soigner, alors même que des fois, elle vient pour des raisons... Et néanmoins, vous avez raison, il y a un certain nombre de paramètres relativement particuliers, notamment quand les personnes ne parlent pas le français, parce que ça peut être la première barrière. Voilà, des spécificités aussi au niveau des situations administratives, juridiques, etc. Et donc sur ces aspects-là, on essaye du coup d'accompagner les professionnels pour leur dire, écoutez, a priori, soigner cette personne, c'est dans vos cordes. S'il existe des barrières qui vous en empêche, on va essayer de travailler ensemble à les lever et donc de mettre à disposition un interprète si c'est ça qui bloque, de vous proposer des petits formations si jamais il y a des sujets sur lesquels vous vous sentez pas en compétence, de proposer des petits outils pour vous faciliter aussi un peu la pratique, etc.
Vous travaillez en partenariat avec de nombreux professionnels de santé sur le territoire breton, mais vraiment sur le réseau de santé Louis Guillou, c'est combien de professionnels qui sont mobilisés, de salariés dans les équipes ?
On a une cinquantaine de salariés, mais alors qui sont la plupart salariés sur des petits temps. Donc ça donne pas forcément une bonne représentation de ce qu'est l'équipe. On a une vingtaine de personnes qui sont des interprètes, salariés de l'association, donc c'est un vrai choix. Après on a des professionnels du soin, des médecins, infirmiers, infirmières, psychologues, psychiatres. Et puis du secrétariat, de la coordination.
Alors, il se trouve que la question de la santé, elle peut être reliée à d'autres problématiques dans les parcours de vie. Et je pense au logement. C'est peut-être le moment où on représente J'accueille Rennes, qui a une antenne rennaise. Mais il s'agit en fait d'un mouvement, d'une association nationale qui a été lancée quand sur le territoire ici ?
Moi, je suis arrivée en octobre 2022. L'association, elle existe depuis 2015. Elle a été créée par l'ONG Singa. Et donc, depuis 2015, on a les antennes de Paris et de Lyon. L'antenne rennaise, c'est octobre 2022 et les premières cohabitations, mars 2023.
Votre spécificité, c'est de mettre en relation des personnes exilées qui ont besoin d'un logement et des hôtes, des familles d'accueil sur le territoire. Ça a pris comment ? Il y a encore besoin de communiquer pour trouver de nouvelles familles ?
Oui, évidemment. On cherche des familles qui ont une chambre de disponible. C'est des hébergements qui vont de 3 à 12 mois en attendant que les personnes puissent avoir accès au logement social. Le principe, c'est de faire du lien d'abord, de proposer de se rencontrer et puis ensuite de cohabiter. Et nous, on accompagne cette cohabitation pendant tout le temps où elle a lieu.
C'est quoi le frein principal à lever sur cette démarche-là ? Peut y avoir une appréhension de l'engagement que ça demande de pouvoir accueillir une personne chez soi dans son quotidien ?
Oui, les questions qui reviennent, c'est souvent « mais moi je travaille beaucoup, j'ai pas forcément le temps » parce que ce qu'on veut proposer, c'est vraiment pas juste un toit sur la tête, mais aussi de pouvoir échanger avec cette famille-là et toutes les membres qui la composent. Et donc, on essaye de lever tous ces freins-là. On fait des réunions d'information qui durent à peu près une heure. On explique ce qu'on fait, on répond à toutes les craintes. La plupart du temps, c'est le temps à partager plutôt que... des préjugés ou des idées conçues, c'est plutôt au quotidien comment on s'organise. Et donc, évidemment, on fait intervenir des personnes qui accueillent déjà et puis on explique comment on fonctionne. Et tout ça, ça se fait plutôt bien une fois qu'on les a rencontrés.
On le dit tout de suite, on vous retrouvera mercredi 18 décembre donc à l'Hôtel Pasteur à Rennes lors de cet événement piloté par le réseau de santé Louis Guillou à l'occasion de la journée internationale des migrants et des migrantes. Depuis ce vendredi, nous avons un nouveau Premier ministre. Il va sûrement se passer de nouvelles choses dans les semaines à venir. En tout cas, avant que le gouvernement ne soit censuré, il y a maintenant un peu plus d'une semaine, et qu'on se retrouve dans une forme de flou artistico-politique. Il y avait ce projet sur la table, celui de réduire le budget de l'aide médicale d'État. Cette aide, elle permet aux étrangers en situation irrégulière de bénéficier d'un accès aux soins. J'imagine que du côté du réseau de santé Louis Guillou, vous avez suivi ces annonces politiques qui vous touchent directement dans votre façon de travailler, Antonin ?
Oui, je vous confirme, effectivement, ça impacte directement les personnes elles-mêmes, parce qu'en fait, des droits qu'on leur octroie ou qu'on leur octroie pas, va dépendre. La suite de leur parcours, de leur capacité à être pris en charge et dans quelles conditions. Et du coup, effectivement, ça a un impact après sur toute la prise en soin, quoi.
Les dernières annonces, elles évoquaient une diminution de 9% du budget de l'aide médicale d'État, soit moins 200 millions d'euros. L'idée, c'était que la prise en charge de prestations non urgentes soit conditionnée à un accord de l'assurance maladie. Dans le débat public, on a beaucoup entendu la droite et l'extrême droite qui s'accordaient pour imaginer là une réduction de la prise en soin des personnes sans papier, avec beaucoup de fantasmes autour de cette aide médicale d'État. On a entendu parler de remboursement pour des opérations sur des oreilles décollées, de pose d'anneaux gastriques. Alors, il y a eu un peu du fact-checking de faits qui montrait qu'il s'agissait vraiment de quelques personnes qui ont pu avoir des remboursements sur de tels soins. J'ai envie de vous entendre un petit peu sur la réalité des soins dont ont besoin les personnes exilées que vous accompagnez avec le réseau de santé Louis Guillou.
Comme vous venez de le dire, tout ça c'est beaucoup beaucoup de bruit pour pas grand chose. L'aide médicale d'État, on veut nous faire croire que ça coûte une fortune, que c'est le contribuable qui paye pour les étrangers, etc. Ce qu'on appelle le milliard le plus surveillé de la dépense publique. En réalité, ça représente même pas, enfin c'est je crois 3 ou 4% du budget total de ce que représente le budget de la sécurité sociale. Il faut savoir qu'une personne sur deux éligible à l'AME n'en bénéficie pas, donc il y a un énorme taux de non-recours, etc. Et que les personnes qui bénéficient de l'AME, ce sont des personnes qui se font soigner pour des pathologies somme toute tout à fait classiques. Si on voulait même rentrer un peu plus dans le détail au niveau économique, aujourd'hui bénéficier de l'AME et pouvoir se faire soigner en préventif coûte beaucoup moins cher que de ne pas bénéficier de l'AME et puis le jour où la situation devient catastrophique, de venir engorger l'hôpital, de venir saturer des services qui le sont déjà, etc. Donc il n'y a pas vraiment d'argument rationnel en fait pour défendre la suppression ou la diminution du périmètre de l'AME. Tout ça c'est évidemment avant tout j'allais dire démagogique, mais en tout cas, histoire d'occuper le terrain au niveau politique. Et donc, on fait beaucoup de bruit, on rentre dans beaucoup de détails sur la diminution du panier de soins, sur des coûts, etc. En réalité, toutes les études montrent qu'au niveau de l'impact financier, c'est vraiment peanuts, ça représente rien du tout. Par contre, ça représente beaucoup pour les personnes elles-mêmes et pour leur capacité à se faire soigner.
On le redit peut-être, l'aide médicale d'État, elle permet une prise en charge à 100% des soins médicaux et hospitaliers dans la limite des tarifs de la sécurité sociale. Ça veut dire que sur certaines opérations comme celles qu'on a évoquées là, il y a donc des restes à charge. Et sur les soins les plus pratiqués, ce sont en fait les soins obstétriques qui représentent 15% des dépenses de l'aide médicale d'État.
Et dans le cadre d'un panier de soins qui est déjà limité, qui est déjà moindre que celui auquel on peut prétendre quand on est à la C2S, enfin en tout cas sur le droit commun classique, quoi.
Vous avez évoqué, on va dire, l'impact de se faire bien soigner sur le reste de son parcours de vie. On peut peut-être en dire un mot de ça, ce que ça change pour ces personnes d'avoir accès à des soins qui sont remboursés.
En fait, ça change tout. C'est comme pour n'importe qui. En fait, quand on est malade, de pouvoir se faire soigner, bah, ça change tout. Et puis, bah, évidemment, ça conditionne après Tout le reste, hein, même sa capacité à, on va dire, aujourd'hui il y a certaines personnes qui peuvent être pointées du doigt parce qu'elles s'en servent pas, parce qu'elles apprennent pas le français, etc. Quand vous êtes malade, quand vous êtes, enfin je veux dire, c'est évident que voilà,
c'est plus compliqué,
c'est la base en fait.
Alors mercredi 18 décembre, c'est la journée internationale des migrants et des migrantes, et à cette occasion le réseau de santé Louis Guillou propose une journée d'échange et d'information. Ça se passera à l'hôtel Pasteur toute la journée, à l'hôtel Pasteur parce qu'il y a un projet qui sera d'ailleurs présenté lors de cette journée qui est accueilli, la maison des migrations.
Oui. Et je peux en parler, je suis au conseil d'administration. Gaëlle Rouget qui a créé ce projet, qui a pour but de coordonner les acteurs, mais surtout de pouvoir proposer un lieu par et pour les personnes exilées. Et donc elle sera présente, comme plusieurs autres associations, mercredi matin, excusez-moi.
Mercredi 18 décembre dans la matinée, au réseau de santé Louis Guillou, vous êtes en fait entouré de partenaires que les citoyens pourront donc rencontrer lors d'un forum de 9h30 à 12h30. On les cite, ces partenaires, beaucoup d'associations comme vous en fait.
Évidemment, donc il y a un certain nombre d'assos qui ont répondu présents à notre invitation. Dida, d'ici et d'ailleurs, Utopia 56, j'accueille évidemment, Déclic Femmes, la LDH, Utude, un toit c'est un droit, la mamie dont on vient de parler, le Secours catholique notamment, et donc le réseau Louis Guillou. On aura peut-être d'autres aussi acteurs qui se joindront à nous. L'idée de toute façon, c'était vraiment d'avoir un temps très ouvert à tous les acteurs qui interviennent sur le sujet de l'accueil des publics exilés sur le territoire. Déjà pour que ces acteurs entre eux puissent se rencontrer, échanger, etc. Et puis aussi pour proposer au public un temps d'accueil de façon un peu informelle. Les gens peuvent passer 5 minutes, 10 minutes, prendre un café, ils peuvent rester beaucoup plus s'ils le veulent, peuvent arriver avec des questions très ciblées s'ils en ont, ou juste venir se renseigner un peu, éventuellement proposer des coups de main si jamais ils en ont le temps, l'envie, etc. Et puis juste échanger, quoi.
Il faut dire que le territoire rennais, peut-être plus largement breton, mais Rennes c'est particulier, il y a un fort besoin d'accompagnement des personnes exilées, notamment parce que les personnes arrivent souvent ici pour des questions administratives. Il y a beaucoup d'associations qui interviennent sur différents champs. Pour autant, il y a peut-être peu d'espace où vous pouvez vous retrouver et confronter vos pratiques.
Oui et non, en fait. C'est-à-dire qu'on travaille quand même pas mal en réseau. On essaye d'être en lien les uns avec les autres parce que chacun en fait, prend un peu le problème par le petit bout qui le concerne directement, que ce soit la santé, le logement, l'insertion économique, etc. Donc on essaye quand même de travailler en réseau. Maintenant, il faut voir aussi que les structures qui travaillent sur ces sujets-là sont des structures qui ont de plus en plus de mal à travailler, parce qu'il y a une diminution drastique des moyens qui leur sont alloués, parce qu'on on sent vraiment là en ce moment les répercussions d'une politique au niveau national global qui dit que ces publics-là, étant donné qu'ils ne sont pas les publics prioritaires, on va diminuer, etc. Et donc on est tous un peu de temps en temps la tête dans le guidon, concentré sur notre activité, ce qui est un peu la base de notre activité. Et on a des fois pas trop le temps, l'énergie d'alimenter ce travail de mise en réseau. Donc on essaye de temps en temps quand même de faire un petit pas de côté et reproposer un peu des temps pour réactualiser un peu les informations entre nous, prendre le temps d'échanger, de discuter, de voir comment est-ce qu'on peut faire ça ensemble, quoi.
Dans l'antenne rennaise de J'accueille, vous êtes la seule à faire revivre ce projet avec quelques bénévoles quand même. Mais je pense qu'il y en a d'autres, des projets de ce genre sur le territoire rennais, notamment sur la question du logement, sur la question de la dimension un peu énergivore de mener des missions comme ça, importantes avec des toutes petites équipes. On peut en dire un mot ?
Je veux bien juste citer les assos qui font à peu près la même chose. Il y a Bienvenue, qui fait aussi de l'hébergement citoyen. Un toit, c'est un droit qui met à l'abri les personnes sans droit ni titre. Utopia, qui fait de l'hébergement pour des personnes, pour les mineurs non accompagnés. Et j'oublie certainement quelqu'un, excusez-moi. Alors, moi, c'est pas vraiment ma façon de voir les choses, de dire que c'est énergivore, même si ça l'est. Et évidemment, on a besoin de forces vives et de bénévoles pour faire vivre ces réseaux-là. Mais moi, j'interviens à un moment où on va vers du plus chouette. On va vers des échanges, on va vers une dignité retrouvée, une chambre à soi. Et donc, moi, j'aurais tendance à dire qu'en fait, c'est du beau là où on est, de se faire rencontrer des personnes qui ne seraient pas rencontrées forcément, de pouvoir donner l'énergie d'aller au travail le lendemain, de causer français chaque jour, enfin, de répondre à ces demandes qui me sont directement faites. Mais évidemment, c'est autre chose quand on est dans la précarité, quand on est dans l'urgence. Par exemple, je pense à Utopia qui gère des campements, c'est totalement autre chose. Et donc, il y a des besoins, évidemment, de bénévoles au quotidien pour pouvoir gérer ces urgences-là.
Vous évoquez les campements qui souvent se succèdent ici sur le territoire rennais. Encore récemment à Rennes, 25 personnes exilées ont été hébergées par une association, la Maison des Squares, dont des familles avec enfants. Ce sont des épisodes dont les Rennaises, les Rennais entendent régulièrement parler. On vous retrouvera donc, J'accueille, avec d'autres partenaires, mercredi 18 décembre à l'Hôtel Pasteur. On a parlé du forum qui est donc ouvert au public dans la matinée. Et puis l'après-midi, place à des projections. Vous avez choisi deux œuvres pour deux publics différents. On les présente, ces deux films, en quelques mots ?
Oui, effectivement. On est parti du principe que c'était un mercredi avant les vacances. Et puis, on s'était dit que ça pouvait être intéressant aussi de s'adresser à un public un peu plus jeune pour essayer de commencer un peu à en parler avec eux. Alors, évidemment, de façon adaptée. Donc, à 14h, il y aura la projection d'un film d'animation qui s'appelle « Dounia et la princesse d'Alep ». Donc qui sera suivi d'un petit temps d'animation pédagogique pour ensuite pouvoir débriefer un peu tout ça avec les jeunes et les enfants qui seront présents.
Teta, c'est vrai que c'est la guerre. Notre nouvelle maison, elle est en Grèce, surtout.
En Grèce ou ailleurs, je ne sais pas où elle sera, Dounia. En attendant, nous sommes un peu comme des oiseaux et le ciel est le même pour tous les oiseaux du monde.
Et puis à 16h30, un documentaire Les soignants de l'exil, qui est un documentaire de Chloé Tisserand, qui présente un peu le travail des soignants à la passe de Calais. Et donc avec un petit temps ensuite d'échange, animé notamment par docteur Jean-Marc Chaplin, qui est médecin à la passe de Rennes.
Donc la PASS, c'est la permanence d'accès aux soins qui fait partie intégrante de l'hôpital et qu'on retrouve donc sur le territoire rennais.
I make a big dress, ok Samy, for the weekend. C'est le secret du pansement auprès des réfugiés, c'est de faire des gros pansements. Parce que comme ils vont crapahuter, après, il faut que ça tienne.
Je vous représente tous les deux, Antonin Bravet, donc pour le réseau de santé Louis Guillou. Vous y coordonnez ce dispositif DataSAM, dispositif d'appui technique pour l'accès aux soins et l'accompagnement des migrants. Et Laurine, vous coordonnez l'antenne rennaise de J'accueille qui mène des missions donc d'hébergement des personnes en situation d'exil. On vous retrouve sur cet événement à l'occasion de la journée internationale des migrants et des migrantes. Ça se passe mercredi prochain, le 18 décembre, de 9h à 18h. On se rend à l'hôtel Pasteur à Rennes. C'est une journée qui est gratuite et sans inscription. Et pour plus d'infos, il y a toujours le site rlg35.org. Merci beaucoup.
Merci.
Merci à vous.
Curiosité, c'est terminé. Un programme d'info locale à écouter du lundi au vendredi à 17h40. Et pour les podcasts, ça se passe en ligne sur canalb.fr.